explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est un fameux trois-mâts qui a embarqué avec lui dans ses aventures toute la France, ou presque. Son nom, l'Hermione, une reproduction de la frégate sur laquelle embarqua Lafayette en 1780 pour rejoindre le Nouveau Monde dans le but de soutenir les insurgés américains dans leur combat pour la liberté. Au départ, il y a plus de 25 ans, quand l'idée de reconstruire ce bateau a germé dans la tête de quelques passionnés, le projet semblait un peu irréaliste. Et pourtant, le 15 mai 2015, la frégate est bien partie de Rochefort. Avec son mât principal, haut comme un immeuble de 15 étages, ses 2200 m² de voilure, ses 25 km de cordage manœuvrés par un équipage de 80 personnes, l'Hermione a traversé l'Atlantique pour accoster aux Amériques, comme l'avait fait avant elle le trois-mâts de Lafayette. Pour revivre cette grande épopée, on peut lire les journaux de bord de Sandrine Pierrefeu, l'une des membres de l'équipage, et de Yann Cariou, le commandant de l'Hermione, dans un livre intitulé « L'Hermione, retour aux Amériques » aux éditions De Monza. Tous deux étaient venus à nous raconter leur formidable aventure en août 2016. Cet après-midi, nous vous proposons une nouvelle diffusion de cet entretien. Et en fin d'émission, nous retrouverons avec plaisir deux habitués de nos bivouacs, les explorateurs des cuisines du monde, Marine Mandrila et Louis Martin. Ils nous raconteront les découvertes culinaires qu'ils ont faites en Thaïlande. Voilà pour le menu du jour. Cette émission a été préparée par Hugo Struna. Elle est réalisée par Anne-Sophie Ladonne et David Leprince, avec à la technique Philippe Duclos. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Gouverner au 65.
Gouverner au 65. En route au 65.
C'est peut-être la dernière fois qu'ils sont à la barre de l'Hermione. Les 78 membres de l'équipage remontent la Charente 4 mois et demi après le début de la traversée.
C'est un rêve de gosse, travailler sur des bateaux comme ça. C'est tout un esprit marin qui s'anime et ouais, donc c'est un rêve de gosse. Si on me demande de repartir demain, ouais, je signe. Il n'y a pas de souci.
Les départs sont toujours très gais, les retours sont jamais gais. C'est toujours un mélange de bonheur de rentrer, mais aussi un peu de tristesse puisque c'est la fin d'un voyage. Et la machine à rêve revient dans son écrin, et voilà, la boucle est bouclée. Ce fabuleux rêve et défi qui est né il y a 22 ans.
Et notre invité, Yann Cariou, commandant de l'Hermione, bat la mesure avec sa tête sur cet air qui est devenu un peu l'hymne de l'Hermione.
Tout à fait, c'est l'hymne du bord.
Ouais. Alors nous étions là dans ce reportage le 29 août 2015, arrivée de l'Hermione à Rochefort. C'était un extrait du journal de 7h30 sur France Inter, donc le lendemain de cette arrivée. Ça doit être une émotion forte hein, qui reste gravée dans vos mémoires, à tous les deux d'ailleurs, hein, Yann Cariou et Sandrine Pierrefeu.
Oui, tout à fait. Les arrivées sont toujours un grand mélange de tristesse du fait que l'aventure se termine. Quand on est arrivé aux États-Unis, on voulait pas que ça s'arrête. On voulait continuer, passer le Horn, aller en Polynésie. Ouais. Et puis, de joie de retrouver ce qu'on aime. Ouais. La terre ferme, les fruits frais. Ouais.
Vous, c'était vraiment, pour vous, Yann Cariou, l'aboutissement d'un projet qui remontait à loin. Hein. Au moment où vous arrivez à Rochefort, la fin août, vous avez, voilà, il y a eu 23 ans pour reconstruire ce bateau. Ensuite, il y a eu ce grand voyage de 4 mois. Vous avez traversé l'Atlantique dans les deux sens. Et alors quoi? L'histoire se termine à ce moment-là? Alors, dans quel état d'esprit on est?
Il y a l'aspect professionnel. C'est toujours un mélange, hein, évidemment, de plusieurs choses. Il y a tout d'abord l'aspect purement professionnel. On a fait le job.
Ouais.
Ça y est, on a réalisé ce défi. C'est le dernier acte d'une fabuleuse aventure et qu'il fallait mener jusqu'au bout, qui n'était pas gagné d'avance. Donc c'est ce sentiment-là. Ça y est, on a réussi. On est rentré à Rochefort, puisque le départ c'est Rochefort, retour. Ouais. On a ramené le bateau intact, l'équipage entier, sain et sauf, aucun incident à signaler. On a réalisé tout le rêve qui a été sorti de la tête de quelques passionnés il y a 22 ans, effectivement. On a fait ça pour eux, parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas le faire. Techniquement, c'était à nous, les marins. Et puis, évidemment, l'émotion de retrouver la terre, comme disait Sandrine, de retrouver les siens, le bonheur, la joie, un peu de saudade, de tristesse, voilà, que c'est déjà fini. Mmh. Et puis alors, l'émotion créée par l'accueil. Parce que là, on avait, à Rochefort, c'est une ville de 27 000 habitants. Vous aviez 120 000 personnes qui nous attendaient. et qui nous ont fêté comme si on avait gagné la guerre d'indépendance, effectivement. Et à un moment, j'ai eu l'impression, évidemment, nous étions en costume historique, qu'on avait vraiment gagné la guerre d'indépendance et qu'on en revenait. Ou alors qu'on avait gagné la Coupe du Monde, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, on a eu cette
ça a pris, ouais,
donc c'était très fort.
Il y a eu un engouement autour de cette histoire.
On nous regarde comme si on était les astronautes, qu'on est la Lune, quand on était. C'était une énorme émotion pour tout le monde à bord.
Alors, on vous prend peut-être pour des astronautes, mais il faut dire que votre vaisseau a de l'allure. À quoi ressemble-t-il exactement, ce bateau? Beaucoup l'ont visité parce que pendant tout le moment du chantier, et puis même à chaque fois qu'il était à quai, c'est vraiment un endroit qui se visite, c'est ouvert au grand public. Ceux qui ne l'ont pas visité, il y a eu tellement de reportages qu'on l'a vu à la télé. Mais quand même, prenez le temps de nous décrire ce bateau.
C'est une image du passé qui ressurgit. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune photo de frégate du 18e. On a des grands voiliers modernes en acier. La photo est apparue au début du 20e siècle. On a des photos, même des clippers. Certains, on a des tableaux assez récents, des photos. Les frégates du fin 18e, on n'a que des tableaux. Donc, et puis c'est toute une époque, c'est tout un symbole. L'Hermione, en plus, c'est avant la Révolution. On est vraiment l'époque un peu flamboyante, fin 18e, où les vaisseaux sont encore magnifiques, ils sont richement décorés, et c'est la fin. Dix ans plus tard, on les peint en noir et blanc, c'est très rationnel, ça devient des vrais bateaux de guerre. Là, on est encore sur quelque chose qui doit être beau. Comme avait dit le ministre de Sartine, il faut faire beau et pas cher. Mais on a encore des bateaux où le roi montre sa puissance, montre son éclat avec ses couleurs, des bateaux très colorés.
Ouais. C'est-à-dire que le bleu vif, le jaune, ouais. c'est pas sorti de votre imagination, non, c'est historique.
Des colorants historiques, ouais. Ces colorants de minéraux qui viennent des carrières d'à côté d'Aix, des carrières d'ocre, c'est des couleurs très précises. Donc évidemment, c'est tout un ensemble et il y a un flash quand on voit ce bateau, on est transporté dans le temps, ouais. On est au 18e. Et en plus, il y a la puissance de ce vaisseau. C'est un vaisseau. Ouais. C'est un bateau de plus de 1000 tonnes. 1050 tonnes, 64 mètres de long, 12 mètres de large, 47 mètres de tir en l'air, comme vous l'avez dit, c'est plusieurs étages. C'est un bateau qui est impressionnant. Il y a 30 canons à bord. C'est une réplique exacte.
30 canons à bord. Pourtant, vous saviez a priori que vous ne vous en serviriez pas pour votre voyage, mais vous avez quand même tenu, quand je dis vous, c'est l'équipe qui a monté ce projet, à ce que les canons soient présents sur le bateau.
Ah oui, les canons, en fait, ils sont partie prenante de la stabilité du navire. Ils sont indispensables à la stabilité. Vous avez 60 tonnes d'artillerie à bord.
Ouais.
60 tonnes, c'est énorme. Et ils sont placés à des endroits où ça va, je vais pas rentrer dans le terme technique, mais ça va participer à la stabilité du navire, diminuer la raideur. C'est indispensable d'avoir des canons à la même masse, c'est 2 tonnes pièce, qu'à l'époque. L'Hermione, je le rappelle, c'est quand même une réplique historique. Donc on s'est attaché à tout faire exactement comme autrefois. Ce qui fait que, comme vous disiez, tous les visiteurs qui viennent à bord, ils sont exactement comme s'ils étaient sur le pont d'une frégate au 18e. Je pense que c'est tout ça qui fait un peu l'émotion.
Sandrine Pierrefeu, à quel moment avez-vous pris part à cette aventure, vous ?
Eh ben c'est drôle ce que dit Yann, parce que en fait, moi, tant que c'était un bateau en chantier, je l'ai visité plusieurs fois, et j'avais pas le frisson. Ouais. Et à partir du moment où je suis arrivée à bord, au moment des essais, où le bateau pourtant était bloqué à terre pour un problème de moteur, eh ben j'ai le cœur qui s'est emballé et je suis tombée amoureuse folle de ce bateau et j'ai demandé à faire partie de l'aventure.
Ouais.
Donc c'est à partir du moment où c'est devenu un bateau où c'était plus un chantier.
Ouais. À partir du moment où ça devenait vraiment un
instrument de voyage. Oui, à partir du moment où le bateau rencontre son élément. Tant que le bateau n'a pas rencontré son élément, pour moi c'était quelque chose d'assez... C'était une très belle commode. C'est pas politiquement correct de dire ça des charpentiers de marine. Mais mon cœur battait pas.
D'accord.
Et à partir du moment où il flotte, là on commence à sentir des choses, il vibre.
Et donc vous avez participé, vous donc, en tant que... On dit gabière, ou gabier si c'est un homme, mais
gabière,
en tant que
ouais.
Gabière pour une femme. Qu'est-ce que c'est un gabier ou une gabière? Donc ce sont ces membres de l'équipage qui ont participé à l'aventure.
Alors il y a deux explications. L'explication historique, c'était des matelots d'élite qui montaient dans les mâts et qui étaient les meilleurs et les mieux payés des matelots. C'est-à-dire que leur paye était juste un tout petit peu en dessous de celle des maîtres, ce qui était énorme sur un équipage de 200 personnes. Aujourd'hui, et c'était, nous on avait un équipage très réduit, 80 personnes au lieu de 250. Hein, et du coup, on était tous gabiers. Il fallait tous qu'on soit apprentis bons, qu'on devienne bons.
Alors ça veut dire, vous étiez 80 là où on était à l'époque de Lafayette, 200 pour manœuvrer ce bateau. Pourtant, vous n'étiez pas plus costaud, alors comment vous y êtes pris pour mener à bien ce travail?
Alors voilà, c'est la tête, Yann montre la tête.
Oui.
Il y avait beaucoup plus d'anticipation maintenant, Yann, corrige-moi, mais beaucoup plus d'anticipation, ne serait-ce que du fait des conditions météo. À l'époque, on prenait ce qui venait.
L'intelligence aussi des
voilà,
des
puis il y avait...
Pour en revenir au gabier, parce que... Effectivement, sur les forces vives du bateau, ils sont 57 à bord sur un équipage de 80. C'est énorme. C'est vraiment les forces vives du navire. C'est-à-dire, nous, on est quelques professionnels quand même à gérer ce navire, mais on a besoin des bras, que tout se fait à la main. Donc nos gabiers, c'était incontournable, il fallait qu'ils soient bons, même très bons, puisqu'autrefois, avec 200 gabiers à bord, enfin 200 personnes à bord en temps de paix, 250 en temps de guerre, ils avaient du mal à maîtriser ces bêtes de course. C'était les bateaux les plus performants sur Terre. Mmh. Pas oublier, des bateaux de 1000 tonnes. Donc il fallait des gens très expérimentés et en nombre. Ouais. Comment faire aujourd'hui? Avec trois fois moins de gens, parce qu'on ne peut pas entasser autant de gens sur un bateau. Financièrement, ça tient, on ne peut pas. Donc on avait fixé la limite à 81 personnes à bord. Et les gabiers, ben, je leur ai dit, voilà la tête, parce que vous avez une intelligence supérieure à celle des marins d'autrefois. Vous n'avez pas la même expérience. Mais vous avez une capacité de mémorisation beaucoup plus importante. Vous avez une intelligence, vous allez apprendre trois fois plus vite.
Mmh. Puis on savait lire.
Et en plus, vous savez lire.
On ne savait pas lire.
Pourquoi vous avez choisi de reconstruire ce bateau-là, précisément, Yann Cariou?
Alors, ce n'est pas moi qui l'ai construit, c'est l'association.
L'association, oui. L'association, donc,
en fait, il y a une bande de doudingues il y a pas mal d'années. Alors, il faut savoir quand même que l'Hermione s'inscrit complètement dans le concours des bateaux de côte de France pour le patrimoine maritime, lancé par le Chasse-Marée dans les années 86-88, pour que la France reconstitue son patrimoine de bateaux historiques. Des tas de projets sont nés en France. Vous avez la Recouvrance, la Grand-Villèze, la Cancalaise, vous avez tous ces bateaux-là, le Quatre-Renards. Donc, pratiquement chaque ville, même le petit port d'Audierne, le Cap Sizun, chaque port de France a reconstruit un bateau historique dans le cadre de ce concours. Et puis, à Rochefort, une équipe s'est dit, tiens, pourquoi pas nous et pourquoi pas l'Hermione? Et enfin, une frégate. Une frégate, c'était énorme. Une frégate, c'est 1000 tonnes. Alors qu'à l'époque, on savait qu'au-dessus de 250 tonnes, c'était la limite pour une association. Mmh. C'était la limite. On ne pouvait pas, ça avait été évalué financièrement, techniquement, 250 tonnes. Là, on part sur un projet de 1200 tonnes au départ. Et c'est un défi à l'impossible. C'est un défi lancé, c'est impossible, on va le faire.
Ouais. Et voilà, et ce projet était... Il ne devait pas y avoir beaucoup de gens pour y croire, au tout
début. Très peu. Ouais. Beaucoup de railleries, beaucoup de... le colibet, ils n'y arriveront jamais, ce sont des doux rêveurs. Et oui, mais ce genre de projet ne naît jamais dans des esprits rationnels. Mmh. Ça naît dans des esprits un peu fous, comme ceux qui sont allés sur la Lune. Mais derrière, il y avait une volonté et une recherche de technique, un désir de mener ce projet au bout, et qui a été vraiment fantastique. Ouais.
Avec l'idée donc de reprendre ce bateau hautement symbolique qui a conduit Lafayette sur les côtes américaines.
Soyez le bienvenu, monsieur de Lafayette. Mais vous êtes si jeune, vous pourriez être mon fils.
Comme beaucoup de vos soldats.
Ah oui, mais ils sont aussi les fils de l'Amérique. Vous êtes français, vous avez une grande fortune, un grand nom. Ce n'est pas le cas de la plupart de mes fils.
On ne reçoit pas la grandeur en naissant, monsieur, mais en se battant pour une grande cause.
Eh bien, pour commencer, vous pourriez déjà apprendre ce que voici. Cornwallis a reçu en renfort 5000 mercenaires brandebourgeois. Le General Howe, 120 nouvelles pièces d'artillerie. Et vous, monsieur?
Un marquis français de 20 ans.
C'est juste. Et pourtant, je ne sais pourquoi. Je crois que je ne voudrais pas changer. Merci, monsieur.
Lafayette, avec George Washington en 1777, fait son premier voyage vers les États-Unis. Il a 19 ans et il y retournera en 1780 à bord de l'Hermione pour combattre. Remettez-nous un peu dans l'époque et dans le contexte historique. Pourquoi fait-il ce deuxième voyage?
Alors, Lafayette est allé une première fois aux États-Unis, il a rencontré Washington, ils sont devenus très amis. Et Lafayette il avait 20 ans, hein. Et Lafayette a compris que les Américains avaient besoin d'aide pour vaincre l'armée britannique, parce que c'était des rebelles, hein, mal équipés, mal armés, pas organisés. Il fallait une grande puissance. La grande puissance maritime, à l'époque, c'est la France, avec l'Angleterre. Donc Lafayette va rentrer en France et va finir par convaincre Louis XVI d'apporter officiellement, il faisait un petit peu en douce, hein, mais officiellement son aide de façon massive, c'est-à-dire avec des troupes, avec une escadre, à Washington pour l'aider à acquérir l'indépendance. Il arrive à convaincre Louis XVI et à obtenir des crédits et des garanties. Et c'est pour ça que Lafayette va embarquer sur l'Hermione. Alors ça, c'est pour ça que Rochefort avait choisi l'Hermione, parce que c'est la frégate qui va emmener Lafayette. Elle est toute neuve, elle vient juste d'être construite. C'est son premier grand voyage. Et elle va emmener Lafayette aux États-Unis. Et c'est une de nos meilleures frégates de l'époque. C'est même la plus rapide en France. Et elle est cuivrée, elle est bien armée. Et donc, le roi se dit sur cette frégate-là, Lafayette sera en sécurité.
Et elle arrivera à bon port. Il avait le mal de mer, paraît-il.
Il a le mal de mer, il va souffrir beaucoup à bord le long de la traversée. La Cunard s'est débarquée de cette frégate. C'est en hiver, on est en février.
On va voir comment ça s'est passé pour vous à bord de ce bateau. L'aventure de l'Hermione, de la construction du bateau à son grand voyage pour les États-Unis cet après-midi. Le temps d'un bivouac vous embarque dans l'une des plus belles aventures maritimes de ces 30 dernières années. Pour nous laisser vos messages, il y a le site franceinter.fr et la page Facebook du temps d'un bivouac.
Allez bien, on va déconner, on va se laisser aller, au propre et au figuré, on va déconner. À côté d'un jour en été, on pourrait le regretter des millions d'années, des millions d'années. Tes yeux disent que t'es comme moi, envie d'en profiter. Baisse un peu la télé, on va chahuter le canapé. Chahuter le canapé. Allez bien, on va déconner, on va se laisser aller, au propre et au figuré, on va décoller. On va déconner. Qui dit que je suis un peu fêlé sur la pente. Je vois t'enfiler. Tu voudrais prendre du recul. Moi je trouve que tu fais trop de calculs. L'histoire a bien débuté quand Eve s'est laissée tenter. N'a-t-il pas créé le serpent autant que la pomme du péché? La pomme du péché. Dans ce mortel isolé, au fond d'un trou perdu, on pourrait recommencer tout ce qu'on a vécu. Tout ce qu'on a vécu.
On va déconner, c'est Charles Elie Couture qui nous lance l'invitation. Nous sommes toujours en compagnie de Yann Cariou, commandant de l'Hermione, et Sandrine Pierrefeu Gabière sur l'Hermione. Leur ouvrage s'intitule « L'Hermione, retour aux Amériques ». Ce sont leurs journaux de bord qui sont retranscrits dans ce livre, avec le manuel du gabier aussi, pour apprendre à manier ses cordages et faire avancer ce vaisseau immense, cette frégate qu'emprunta Lafayette pour se rendre aux États-Unis en 1780. Alors au départ, vous pensiez que la construction du bateau prendrait, quand je dis vous, c'est l'équipe qui a mené cette construction, pensait que cette construction prendrait 10 ans. Finalement, ça a duré 20 ans. C'était plus compliqué que prévu, Yann Cariou ?
Plus compliqué, oui, parce que c'est aussi une aventure technique, évidemment, mais surtout financière. Ouais. Il faut voir que c'est un budget au départ, la construction, le budget a été multiplié par 3 par rapport aux estimations, mais c'est un budget de 26 millions d'euros, c'est pas rien, entièrement, enfin pratiquement financé à 64% exactement par l'association. C'est une petite association qui se lance dans un projet irréalisable. Et elle ne construit, elle ne veut faire aucun emprunt. C'est pour ça que c'était un succès. Ils n'ont aucune dette. Ils construisaient au fur et à mesure des recettes. Comme un ménage, ils géraient leurs ressources. Tant qu'ils avaient de l'argent, ils construisaient, et l'argent diminuait, on arrêtait, on ralentissait, et puis on relançait. C'est-à-dire qu'une fois que lorsque la coque a été terminée, il y avait 0 € de dette. Belle opération financière. Ouais. Donc, ce qui explique pourquoi c'était aussi long. parce qu'on ne pouvait pas, emprunter.
Avec le souci de rester au plus proche de la construction du navire telle qu'elle avait été faite un peu plus de deux siècles auparavant. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas acheté du bois, on a été coupé des chênes en forêt. Pourquoi cette décision d'abattre, je crois, 2000 chênes sélectionnés dans les forêts françaises?
Parce qu'il fallait la reconstruire. Déjà, il n'y a pas de stock de bois. Le stock de bois, c'est énorme. C'est l'équivalent, effectivement, de 4000 chênes, je crois, en tout, pour reconstruire un bateau comme ça. Il y avait un peu de stock de bois qui traînait après l'ouragan de 99, notamment. Je crois qu'il y a des morceaux du bois de Versailles qui sont dedans, de chênes. Ouais. Il y avait quelques stocks de bois, mais pas suffisamment. Et puis, évidemment, le souci de, effectivement, comme vous le dites, de reconstruire le plus fidèlement possible ce navire, parce que c'est une réplique historique. Ouais. C'est-à-dire, là, on va construire comme c'était à l'époque, en faisant quand même des concessions aux règles d'aujourd'hui.
On est d'accord, il y a des moteurs à bord de l'Hermione.
Il y a des moteurs.
Quand même, ils n'y étaient pas il y a deux siècles.
Non, il y a des moteurs, il y a un radar, il y a des GPS. Voilà, évidemment, parce que sinon le bateau n'aurait pas le droit de naviguer. Alors, l'association au départ voulait faire un bateau parfaitement authentique, absolument authentique, c'est-à-dire une réplique exacte, sans aucun instrument moderne. Et là, rapidement, les autorités françaises ont dit c'est bien, mais vous ne naviguerez jamais.
C'est-à-dire que dès le début du projet, il y avait en tête cette idée que, à terme, le bateau referait la traversée de l'Atlantique, irait jusqu'aux États-Unis.
Tout à fait. Le but, c'était, un, on reconstruit une frégate du 18e, pas mal. Deux, on fait le voyage aux États-Unis que Lafayette avait effectué. On refait tout. Voilà, on fait tout un ensemble et on le fera de A à Z. Et ça, c'est un super défi.
Alors, pour construire le voilier, il a fallu réapprendre de très nombreux savoir-faire oubliés. Et malgré toute la bonne volonté des bénévoles impliqués, ça prend du temps. Deux exemples d'artisans qui ont participé au projet. Un forgeron et une femme chargée de la voilure.
Je connaissais rien du tout au monde de la marine et des bateaux. Donc, on était vraiment perdu parce que c'est des termes vraiment particuliers. Et après, le métier en lui-même, lui, les techniques ne changent pas vraiment par rapport à la ferronnerie, c'est même les mêmes. Ce qui change, c'est ce qu'on fabrique, en fait. Mais le vocabulaire ici, c'est très long. Avant 6 mois, vous êtes perdu.
Je fais les finitions, c'est-à-dire les œillets qui sont fabriqués à la main, qui sont des œillets en cordage, en fait, qu'on fabrique comme c'était fait à l'époque, et qui sont cousus après. Le cordage qui est cousu tout autour de la voile, qui est le renfort, en fait, de la voile, pour éviter l'étirement et les déchirures. Et puis, là, les finitions que je suis en train de faire actuellement, c'est le renfort des angles des voiles qui sont repassés avec un bitor, un fil goudronné, de manière à ce que ça soit plus costaud.
Le forgeron s'appelle Aurélien Velot. La maître voilière, c'est Anne Renaud. C'est deux exemples en particulier, mais c'est vrai pour combien de métiers d'artisanat il a fallu réapprendre tout simplement.
Tous les corps de métier, charpentier, menuisier, ébéniste, forgeron, maître voilier, on a des peintres, des gens qui ont fait la dorure à la feuille, enfin qui ont fait des sculpteurs, on a eu pratiquement tous les métiers, des cordiers, tous les métiers pratiquement artisanaux ont travaillé à bord. Et avec un fil conducteur qui était la passion du travail bien fait, la passion du beau métier, et de participer à cette, comme disait Sandrine, une commode Louis XVI, c'est sûr, une commode Louis XVI, ça se fait pas n'importe comment, oui. Il y a des détails, et tous les détails...
Vous l'avez vexé, Sandrine Pierrefeu, vous l'avez vexé avec votre commode.
Non, mais j'ai dit aussi, c'est un Versailles flottant, ouais. C'est-à-dire qu'on s'attache à faire, comme on parlait des couleurs tout à l'heure, il y a des historiens qui ont travaillé sur les pigments, quelle était la
des
couleur
années.
Exacte. Ouais. Pendant des années, le moindre détail à bord a demandé des années de recherche, des petits groupes de passionnés qui travaillaient dans un coin, qui allaient chercher un renseignement, qui rentraient 2 semaines après ou 3 semaines, on a trouvé, voilà. C'était ouais. Comme ça.
Mais oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il ne restait pas les plans de ce bateau. Il n'y avait que des petites informations éparses. Il a fallu faire des recherches incroyables.
Tout à fait.
Est-ce qu'on est finalement sûr qu'il ressemble... À quel point il ressemble à l'original, ce bateau, final?
Comme j'ai dit, personne n'est vivant aujourd'hui. De vivant, on a connu ce bateau. On n'a pas de photos. Alors, tant que vous n'avez pas de photos, ni de témoignages, vous ne pouvez jamais dire que c'était exactement comme ça. On s'est attaché, l'association s'est attachée à faire le plus proche possible de la réalité, avec tous les moyens qu'on avait, avec tous les gens qui ont fait des recherches. En fait, c'est du bon sens, souvent. Du bon sens, parce qu'on a regardé ce qui se faisait à l'époque. On avait des maquettes de musées. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur des maquettes, des modèles du musée de la Marine, Paris, Toulon, Rochefort. On avait le musée de la Marine de Rochefort sur place. On a travaillé dans des archives. On a fallait s'imprégner de l'époque, s'imprégner de ce qui se faisait. Et après, il y a eu, pour ceux qui n'ont pas été trouvés, on a eu des interprétations. C'est-à-dire, on se dit, c'était comme ça à l'époque. Ils faisaient dans ce sens-là. OK, ils ont dû faire comme ça. Et après, c'était collégial.
Alors, le bateau a pris forme. Et ensuite, Sandrine Pierrefeu, eh bien, il a fallu choisir les membres de l'équipage qui allaient faire prendre la mer à ce bateau. Et là, vous rentrez dans l'aventure. Vous êtes une des personnes, Gabier et Gabière, qui ont participé. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que où on se présente, combien vous étiez, comment vous avez été sélectionné?
Alors, moi, c'est un cas un tout petit peu à part, mais il y a 800 personnes qui ont fait acte de candidature. Yann a regardé l'intégralité de ces candidatures, dont certaines ont été très drôles. Je me souviens d'une lettre qu'on a retrouvée et qui disait de toute façon, je monterai sur votre affio, autant que ce soit avec votre autorisation.
Il a donc, été recruté.
Donc, il y a eu des choses magnifiques, des lettres extrêmement hardies, enthousiastes, passionnées. Et Yann a principalement choisi sur la passion et sur des aptitudes comme celle de travailler en hauteur, mais pas forcément des gens qui avaient déjà fait de la voile, puisque personne n'avait jamais navigué sur ces navires-là. Donc nous étions tous, d'une certaine manière, débutants.
Vous aviez déjà navigué?
Oui, moi je faisais partie de ceux qui avaient déjà une expérience des grands voiliers, mais évidemment pas de cette époque-là, ou très peu. Et voilà, et ensuite il y a eu des essais, les gens ont fait 3 jours d'essais et de cours, alors matelotage, apprentissage du navire, et puis surtout grimper. Il fallait passer le test de l'ascension des mâts et des gambes de revers.
C'est quoi les gambes de revers?
Alors les gambes de revers, c'est les passages à l'envers pour accéder aux hunes. Et les hunes, c'est les petits balcons. Vous savez, dans les
films de pirates,
le pirate qui regarde au loin sur l'espèce de nacelle en l'air, c'est ça.
Balcon de 31 mètres carrés.
31 mètres carrés, c'est un bel appartement. Ça veut dire qu'il y a un dévers assez long. Ouais. Et ça, il faut le passer quand ça bouge pas au port. Parce que sinon, on le passera pas quand ça bouge.
Ces plateformes que l'on voit en hauteur et qui nous paraissent si petites, en fait, elles sont tellement hautes qu'elles nous paraissent petites, mais c'est 30 mètres carrés. Hein, c'est
la grande hune, sur le premier, 31 mètres carrés exactement, le plateau de la grande hune. Ouais. C'est énorme.
Oui, c'est déjà, comme vous dites, un petit appartement. En tout cas, à Paris, c'est un petit appartement, cette nacelle. Alors effectivement, il a fallu s'entraîner. Le recrutement a été difficile, Yann Cariou?
Non, parce que j'avais du temps et j'avais un nombre important de CV, de demandes. J'en ai vraiment étudié, je dirais 350-400, que j'ai relu 3-4 fois chacun. Et de là, j'ai sorti des candidatures et ensuite a commencé la formation. Donc formation, on reçoit les gens à Rochefort, on les forme pendant 3 jours et on les pique, on leur donne le virus.
Ouais.
Et ensuite, ils repartent comme des étudiants, ils leur courent. Ils doivent travailler, ils reviennent régulièrement, ils se forment.
Oui. Puis ensuite, il a fallu prendre la mer pour s'entraîner à la manœuvre.
On change le vent, on brasse la misaine. Largue ton faux bras, Simon. Largue la mûre. On retourne les coudes en même temps. Allez, brasse ça. On brasse.
On a réveillé tout le monde, ils sont sur le pont.
Ouais. On a réveillé tout le monde plus tôt que prévu. Et là, on a besoin de tout le monde, on le sait, parce qu'on fait un virement vent devant.
Grosse manœuvre.
Ouais, c'est une manœuvre compliquée, en fait.
Ça commence à être raide, Steph.
On va tourner au bras.
On reprend le hauban au vent.
Un extrait d'Interception sur France Inter, un reportage signé Antoine Gignot. Il faut se rendre compte, je le disais, 25 km de cordage. Si j'ai bien compris, quand on est sur le pont, il y a 250 bouts, c'est-à-dire bouts de corde qui arrivent. Et quand on tire dessus, il ne se passe pas la même chose, ça ne pilote pas et ça n'a pas les mêmes conséquences. Comment on fait pour s'y retrouver? D'autant que là encore, il n'y avait pas le manuel de pilotage quand vous avez dû manœuvrer le bateau en tant que commandant, Yann Cariou.
Non, alors le manuel de comment ça marche, c'est moi qui l'ai rédigé.
Ouais.
Bon, ça m'a demandé 2 ans. Là aussi, il fallait faire historique, c'est-à-dire que chaque cordage, il y en a 250, effectivement. Maintenant, il y a 270 qui redescendent d'en haut.
Ouais.
Chacun a une fonction particulière et ça doit aller à un endroit particulier. Il fallait que ce soit historique. Pas ici, pas là, c'était là. Et pour s'y retrouver là-dedans, eh bien, il y a la formation, l'entraînement. Et puis, on a fait un plan de tournage. Un plan de tournage qu'on doit savoir par cœur. C'est-à-dire chaque gabier, chaque membre d'équipage doit connaître par cœur.
Ça la fait rire, la gabière. Pourquoi?
Parce qu'on a tellement galéré avec ça que dès qu'on avait un temps mort, que ce soit à 2h du matin, 3h du matin dans la journée, on faisait des petits groupes et on se faisait des interros sur le pont. Et surtout, il y a un moment, on l'a affiché dans les toilettes.
Oui.
Parce que ça, c'était un moyen de l'apprendre.
Il n'y a pas d'heure pour réviser.
Parce qu'il fallait absolument qu'on ne se trompe pas.
Ouais.
Et de nuit, on n'avait pas le droit au frontal.
Ouais.
Et donc, il fallait les trouver à tâtons, sans se tromper.
Ouais. Et c'est arrivé qu'on se trompe?
Bah, le moins possible, ça criait fort et vite, mais il y a des bouts sur lesquels on ne se trompait pas.
Si on se trompe, ça peut avoir des conséquences terribles, donc on essaie de ne pas se tromper.
On demande avant si on n'est pas sûr.
Si on n'est pas sûr, on apprend tout ça. Bon, les gabis apprennent tout ça, la sécurité, les réflexes. Mais ça a marché, puisqu'on a fait des manœuvres de nuit, nuit noire, sans lune. Mmh. Et là, effectivement, c'est le noir total, vous êtes en aveugle.
Donc, là, pas le droit à la lampe de poche, pour être dans les conditions
Non, parce que la lampe de poche, c'est aveuglant. Nous, on met un quart d'heure à ce que nos pupilles s'habituent à l'obscurité sur le pont. Donc, s'il y a un éclair lumineux, on perd la vue pendant un quart d'heure.
D'accord.
En mer, on doit voir sans rien. Donc, on s'habitue à la pénombre, comme les chats, hein, la pupille se dilate et on voit. Donc, la moindre éclair lumineux, c'est foutu.
Et après tous ces entraînements, ils avaient appris, comme vous dites, si bien que le 18 avril 2015, c'est le grand jour, l'Hermione prend le départ.
Les marins ont mis plus d'une heure pour hisser l'ancre d'une tonne 7 à bord. Hier soir, l'Hermione largue les amarres, direction l'Amérique. Toute la journée, le navire a paradé dans l'embouchure de la Charente devant des milliers d'admirateurs.
C'est magnifique, hein, c'est une partie de l'histoire, donc c'est un très bon moment. On est arrivé vendredi soir à 5h30 pour être sûr d'être là, quoi, pour pas rater l'événement.
On pouvait pas ne pas venir, c'était pas possible.
C'était magnifique.
C'était super.
Ah, super sympa.
Là encore, hein, on s'en rend compte, mais à chaque étape hein, des grands moments de ce bateau, c'est le succès incroyable. Le public est au rendez-vous, les politiques aussi, le chef de l'État fait le déplacement. Tout le monde était là pour voir partir ce bateau. Vous étiez conscient que ça susciterait un tel engouement, un tel intérêt, Yann Caruy?
Oui, parce que dès nos premières navigations, on a vu et sur Internet les réactions des blogs et sur la côte, là c'était du visuel, de la réalité, des milliers de gens qui suivaient l'Hermione. On est allé à Bordeaux pour notre première escale en 2014 lors des essais. Et là, les rives de la Gironde étaient noires de monde du début à la fin, jusqu'à Bordeaux, quoi. Donc on a quitté Bordeaux, même chose, jusqu'à Royan, jusqu'au Verdon, vous aviez du monde.
Ouais.
Chaque champ, chaque petit morceau de route, c'était noir de monde sur des 100 kilomètres, quoi.
Ça donne des ailes ou ça met la pression, Sandrine Pierrefeu, de se sentir à ce point observé? Tout le monde projette un peu de son rêve sur cette histoire.
Je crois que c'est vraiment ça, c'est une histoire de rêve. Quand on vit son rêve, c'est contagieux. Et je pense qu'on était nous-mêmes très proches de nos rêves, très enthousiastes. Mmh. Et on était surtout très heureux. Et le fait qu'il y ait du monde ou pas, ça nourrissait le rêve, je crois. Ouais. Mais on était avant tout très heureux. Ça ne nous a pas mis la pression. On était tellement heureux de partager, tellement contents que d'autres aiment autant ce bateau que nous. Ouais.
Alors ça, c'était au départ. Et puis après, tout le long, l'ambiance à bord. C'est toujours avec la même énergie, on imagine aussi. Parce que, en fait, c'est tellement minutieux qu'il faut toujours ajuster les voiles, en enlever, en rajouter, changer l'orientation. Donc vous êtes sans arrêt en action. C'est très éprouvant physiquement. Est-ce qu'on garde le moral et cette énergie tout au long du voyage?
On se donne corps et âme à un bateau. Il faut le savoir, c'est comme ça. Quand on embarque, on abdique quelque chose, on donne tout. Et là, on donnait tout pour un rêve, on devenait tous des pirates, on se rapprochait tous de nos rêves d'enfance. Quand on s'en éloigne, ça fait mal. Quand on les retrouve, on a des ailes.
Vous allez nous raconter ce voyage dans la suite de ce temps d'un bivouac consacré à l'extraordinaire aventure de l'Hermione.
Je l'ai mis dans un tiroir et j'ai jeté la clé et
jamais je ne la retrouverai. Aux oubliés, c'est là qu'elle est, qu'elle y restera pour l'éternité. Pourquoi tant de peine et pourquoi je n'ai pas eu de peine? Elle y m'a causé quelques problèmes, mais j'ai pris le large et maintenant, dans la nuit, je pars et je quitte la maison.
C'était la femme qui chantait Nouvelle-Orléans dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
On y va ?
Allez.
Voilà, donc là on est au pied du grand mât.
Ouais.
Là on a combien de mètres à faire en hauteur ?
Bah là on va se faire un petit 30 mètres. On est tout en haut des haubans.
On aperçoit le bateau en bas. Pour arriver là-dessus, il va falloir qu'on escalade en passant en dessous de la plateforme.
Voilà, donc on va être en dévers et on va avoir le dos...
dans le vide.
Voilà, et si on se retourne, là on voit l'immensité de l'océan. Bon, allez, on se retrouve en haut de la plateforme.
Allez.
Et là, c'est la grimpette.
On essaye de monter la dernière échelle.
Ouais, carrément.
J'ai une petite accélération. Du rythme cardiaque.
Tac. Okay. Nickel.
Ouh,
là, on y est.
Oh la vache.
On est là-haut.
Là, on est à quelle hauteur ?
40 mètres de haut du pont. On tarde un peu, là, tu vois. C'est vite fait. C'est assez hypnotique, moi, je trouve. Cette immensité de l'océan.
La ligne d'horizon.
Ouais. L'Amérique.
Sandrine Pierrefeu, Gabière sur l'Hermione. Les gabiers, ce sont ceux qui montent justement sur ces filets à 54 mètres de hauteur. Faut pas avoir le vertige pour faire ce travail.
Non, c'était une condition. Après, comme dit Nico dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est hypnotique. C'est-à-dire que une fois qu'on commence à monter, si vous voulez, le bateau diminue. Vous êtes sur vos mains, vos pieds, parce qu'on s'assure quand on s'arrête.
Ouais.
Mais sinon, c'est comme quand vous montez sur une chaise, vous vous attachez pas.
Ouais.
Et donc, on monte sans être assuré. Donc, on monte, on se concentre. Il faut imaginer que ce sont des cordages de chanvre qui sont enduits d'une matière qui glisse. Donc, on se concentre. Et là, petit à petit, le bateau diminue et les voiles prennent toute la place. Et c'est comme si on était sur une montgolfière de toile. Et là, il y a vraiment quelque chose de magique, on se prend pour un oiseau. Enfin, là, il y a vraiment... Puis il y a les odeurs, il y a le vent, il y a les bruits. Et puis le bateau n'existe plus, on ne le voit plus de là-haut.
C'est l'équivalent d'un immeuble de 15 étages.
On est à 40-45 mètres du haut par rapport au niveau de l'eau. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a ces panses de toile, c'est des voiles carrées qui sont gonflées sous vous. Et du coup, la coque, qui est déjà relativement petite à cette hauteur, disparaît sous ces panses de toile.
Et ça doit bouger terriblement. C'est-à-dire que même avec un roulis relativement faible, en haut du mât, ça doit tanguer et tanguer.
Il y a forcément beaucoup plus de ballon là-haut. Plus on monte et plus il y a du ballon. En plus, quelquefois, les vergues, il y a les mâts, mais les vergues bougent, ces espars horizontaux, bougent en plus eux-mêmes par rapport au mât. Et donc, c'est vrai que ça fait des mouvements combinés qui ne font qu'au bout d'une heure, sur les vergues de perroquets. S'il y a de la mer, tout le monde redescend avec un teint qui a légèrement verdi.
Oui, c'est-à-dire que même les plus résistants peuvent être un peu sujets au mal de mer. Quand vous parlez du truc au perroquet, là, le vergue au perroquet, c'est tout en haut du mât.
La vergue de perroquet, donc la vergue, c'est l'espace horizontal qui est perpendiculaire au mât, sur lequel on met les voiles carrées. Et celle de perroquet, oui, c'est la plus haute.
Oui, c'est tout un jargon. Alors en plus, Yann Cariou, comme les gabiers et les gabières, vous l'avez dit, pour la plupart, n'étaient pas des familiers de la mer et de la navigation, ils ont dû tout apprendre de ce vocabulaire, pas seulement de la façon de manœuvrer le bateau, mais aussi du vocabulaire des marins.
Et oui, c'est ça qui est terrible, ils ont dû apprendre entre 200 et 300 termes de marine, dont beaucoup issus du 18e siècle, pas seulement des termes d'aujourd'hui. Ils ont dû intégrer tous ces mots, mais il y a aussi des verbes, des phrases, parce qu'il y a tellement de nuances dans les termes de travail, c'est carrément une langue étrangère. Parce que vous avez des verbes, des sujets complètement. Il faut apprendre une grammaire.
Vous avez une phrase dans une langue étrangère de marin à nous donner en exemple.
Il va falloir choquer à la demande la bouline au vent du Grand Hunier.
Je vous confirme que je n'ai pas compris grand-chose de cette phrase. Vous avez dit quoi ? On peut le traduire en mots.
Choquer à la demande, c'est-à-dire donner du mou suivant, en gardant une certaine raideur, mais en filant juste ce qu'il faut. à la bouline qui est du côté. Alors la bouline, c'est le cordage qui ouvre la chute au vent du grenier. Ouais. Et cette bouline-là, elle le maintient ouvert. Donc on va la donner un petit peu de mou, de manière à refermer un petit peu le nier qui est la grande voile.
Voilà. Alors c'est ce que j'allais. Vous savez quoi ? Si vous me l'aviez demandé comme ça, je n'aurais pas su quoi faire non plus.
pour nos gabis, c'était transparent.
Bon, très bien. Alors le trajet qu'a effectué ce bateau, c'est pas forcément le même qu'avait fait Lafayette en son temps, il y a plus de deux siècles, hein, pour rejoindre la côte est des États-Unis.
Oui, tout à fait. Alors, le commandant de la Touche à l'époque a pris une route audacieuse. Sa mission, il était investi d'une grande mission directement du roi Louis XVI, vous imaginez. De la Touche, très ambitieux et très très bon marin. Il dit, il faut y aller au plus vite. On a hâte de porter la bonne nouvelle à Washington. Et là, il prend une route bizarre, plein ouest. Ah oui. Il sort du golfe de Gascogne en février. C'est pas réputé pour le beau temps. Et il finit sur la Corogne. Et de la Corogne, il persiste à aller encore à l'ouest. Ce qui est aberrant, parce que le vent est d'ouest, le vent dominant. Puis finalement, la réalité le rattrape. Il descend sur les Açores. Et puis là, la chance qui sourit aux audacieux. Il attrape un vent de sud-est et il monte. Et il file directement sur Boston avec 4 jours, 5 jours d'incertitude sur la fin. Parce qu'ils avaient 360 000 d'incertitude, d'erreur, de longitude. Bref, en tout cas, lui, il a fait une route directe. Nous, on a pris les routes classiques par les alizés qu'ils auraient dû prendre, d'ailleurs. Donc, on est descendu jusqu'aux Canaries, prendre les vents alizés, Bermudes, et ensuite remonter sur le sud de la Virginie.
Une traversée, hein, je crois une quinzaine de jours pour arriver jusqu'aux Canaries, puis ensuite...
12 jours, et ensuite...
Une pause d'une semaine aux Canaries.
5 jours, 4 jours aux Canaries.
Et puis ça repart.
Faire les pleins des vivres, et puis ensuite, un peu moins de 3 semaines pour rallier Cap Henry.
Sandrine Pierrefeu, pendant ces 3 semaines qui se sont étalées entre les Canaries et puis la côte est des États-Unis, comment ça se passe à bord ? Quelle est l'ambiance ? Peut-être qui est le plus précieux à préserver, c'est le sommeil ?
C'est le bonheur déjà. Le sommeil, c'est pas grave, on se régale. La nuit, c'est magnifique. Le jour, c'est formidable. Donc, ouais. Je crois qu'on est tous un peu sur un petit nuage.
La nuit, c'est magnifique. J'ai cru comprendre quand même que le pire quart, c'est celui qu'on nomme le quart du chien.
Du chien,
c'est celui qui commence à minuit. Donc, celui-là,
minuit
il est quand
à
même pas réputé
c'est
pour
dur,
être magnifique.
Mais c'est aussi un moment où on a le bateau pour soi, parce que du coup, tout le monde dort. Ouais. C'est le moment où on regarde les étoiles. C'est le moment. On a de la chance sur ce bateau-là. C'est vrai que Yann a imprimé une espèce de jubilation. C'était joyeux et jubilatoire sur ce bateau, donc on pouvait monter. S'il n'y avait pas de manœuvre à faire, on était autorisé à monter. C'est vrai que ça pouvait aussi être des moments où on pouvait monter sur la une et passer un quart d'heure, 20 minutes, juste à profiter des reflets de la lune sur la mer, des scintillances. Oui.
On le sent. La façon dont vous le racontez, que vous l'avez fait et que vous en avez profité. C'est difficile d'avoir la position du pacha, comme on dit, hein, quand on est le commandant d'un bateau, du pacha sur ce type de bateau. L'essentiel de l'équipage, ce sont des bénévoles qui ont demandé à être là pour passion, mais il faut quand même les emmener à bon port avec les consignes de sécurité et puis aussi, enfin, faut que ça tourne bien. Comment on dose l'autorité du pacha?
Ouais, elle est naturelle, elle doit être naturelle, sinon ça marche pas. L'avantage de ce bateau, c'est que j'ai eu la carte blanche de l'association, c'était sympa, enfin, c'était ma condition aussi, pour le recrutement, la formation de tout l'équipage. La sélection, recrutement et formation de tout l'équipage. Mmh. Il est clair que là, on avait 81 passionnés à bord. Ouais. Alors quand vous avez 81 personnes passionnées sur un même bateau par le même projet, ça doit bien marcher. Après, attention, ces gens-là, il faut leur donner une formation. On peut pas les lâcher comme ça dans un milieu, un environnement de travail aussi dangereux, faut le dire, c'est un environnement dangereux, sans formation. Donc on l'a fait, on les a formés. Donc ces passionnés, on les a formés, ouais. Et on les a transformés en marins. Après, si vous voulez, tout le monde comprend... À bord, c'est le bateau qui commande, c'est pas moi.
Et donc, après 27 jours de traversée depuis les Canaries, arrivé en Virginie, à Yorktown, le 5 juin 2015.
Aux premières heures du jour, elle se dévoile dans la brume américaine. Rien de tel qu'un instrument d'époque pour l'observer de près. L'Hermione va bientôt toucher la terre du Nouveau Monde.
C'est incroyable qu'ils aient réussi à traverser tout cet océan jusqu'ici, comme le faisaient les marins dans l'ancien temps.
Arrivé à Yorktown, on imagine l'émotion quand vous avez vu la côte américaine se dessiner devant vous.
Énorme, c'est un retour avec l'histoire, c'est le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand, d'avoir mené ce bateau au bout de son rêve.
Avec aussi du côté des gabiers et des gabières, on imagine une grande émotion.
Oui, une fête formidable. On a eu quelques heures pour digérer cette émotion-là à l'encre, entre nous, et ça a été magnifique.
Puis après, vous avez remonté toute la côte, hein, vous êtes arrivé jusqu'à New York. Là aussi, ça a été le point d'orgue avec coup de canon à New York. Les avions de chasse aussi qui sont...
Pas trop, il y a F-18.
Qui sont passés au-dessus...
Hudson River.
Au-dessus de vos têtes. Évidemment, après, vous êtes rentré, hein, il a fallu faire le chemin dans le sens inverse. Vous êtes allé à Brest, puis ça s'est fini à Rochefort. Régulièrement, le bateau va de port en port pour être visité, présenté. Mais la prochaine grande aventure, c'est quoi, Yann Cariou ?
Après, il faut trouver une grande aventure, je pense, une grande mission. Moi, personnellement, je pense à l'expédition La Pérouse. Mais voilà, une grande expédition à la hauteur de l'Hermione. Ce bateau qui a pris une dimension maintenant... plus que national, international, on va dire. Et ce bateau fantastique a besoin de projets fantastiques.
Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci Yann Cariou et Sandrine Pierrefeu. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Hermione, retour aux Amériques, aux éditions de Monza. Bon retour à tous les deux en Bretagne et merci d'être venus jusqu'à nous.
Merci à vous.
Actuellement, l'Hermione se refait une beauté dans le port de Bayonne, où elle est en cale sèche. En 2022, la frégate effectuera une tournée dans différents ports d'Europe du Nord. En attendant, on peut visiter les ateliers et les expositions racontant ses nombreuses aventures à Rochefort. Dans un instant, nous partons en Thaïlande pour une exploration culinaire avec Marine Mandrila et Louis Martin. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac sur France Inter.
I'm sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high.
C'était Sailing de Rod Stewart. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Valentine Chedebois. Et à présent, on part manger en Thaïlande.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Bonjour Marine Mandrila et Louis Martin.
Bonjour.
Enchanté de vous retrouver pour une nouvelle aventure culinaire. Vous avez effectué ce grand tour du monde où vous êtes allé vous inviter dans les cuisines des habitants pour partager la nourriture et aussi la culture. Et là, aujourd'hui, vous nous emmenez en Thaïlande.
Oui, on avait commencé par Bangkok, la capitale, qui est la porte d'entrée du pays par laquelle arrivent tous les touristes avant d'aller dans les plages du sud du pays. Et on a tenu à peine 24 heures sur ces îles qui sont certes paradisiaques, mais envahies de touristes.
Ah, oui, oui.
Et donc, du coup, on a essayé de s'enfoncer dans le nord du pays, de sortir des sentiers battus, en espérant faire des rencontres un peu plus spontanées et un peu plus authentiques.
Oui. Oui, c'est vrai que là, il y a des choses à découvrir. Quand on monte dans le nord de la Thaïlande, dans les montagnes, il y a des très beaux endroits. Et donc là, vous n'avez pas été déçu. Vous êtes notamment allé passer quelques jours en immersion dans une communauté karen, une communauté ethnique qui présente la particularité d'être organisée en société matriarcale, où l'homme accomplit des tâches souvent réservées aux femmes.
En fait, pendant tout notre tour du monde, on a réalisé à quel point, partout dans le monde, la cuisine, c'est une affaire de femmes. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de raconter dans notre livre et de rendre hommage à toutes ces femmes qui nourrissent vraiment la planète. Sauf chez les Karen. Les Karen, vous savez, c'est cette ethnie dont certaines communautés sont appelées les long neck ou les femmes girafes, parce qu'elles portent des très très longs colliers qui allongent leur cou et leur allure. Et on a eu la chance d'aller partager leur quotidien et leur mode de vie pendant quelques jours, grâce à Jackie, qu'on avait rencontré à Chiang Mai, donc dans la grande ville du nord du pays. Et on est arrivé un jour à l'heure du déjeuner chez Jackie. Comme d'habitude, on est allé directement donner un coup de main en cuisine. Et pour la première fois de notre aventure, on s'est vraiment retrouvé exclusivement avec des hommes et on se demandait vraiment où étaient les femmes.
Et ce n'est que pendant donc le repas que Jackie vous a expliqué que la division des tâches ménagères est différente chez eux que chez nous.
Bon, je goûte la soupe.
Pimentée ?
Un peu pimentée, mais c'est bon. Et en général, c'est les hommes de la famille qui cuisinent ?
On cuisine ensemble, mais la plupart du temps, ce sont les hommes qui cuisinent, parce que les femmes doivent s'occuper des animaux et des enfants.
Et ça se passe comment quand vous vous mariez ?
Quand on se marie, c'est l'homme qui va s'installer dans la maison de sa femme.
Ce qui était intéressant, c'est que les rapports entre les hommes et les femmes étaient vraiment inversés dans plein de domaines. Et on a eu l'impression qu'il y avait une forme d'égalité face au travail, peut-être même plus que dans nos sociétés. En tout cas, même dans les travaux des champs, qui sont équitablement répartis entre les hommes et les femmes.
Et alors, finalement, est-ce qu'on mange bien chez les Karen quand les hommes sont au fourneau ?
Alors oui, on mange très très bien chez les Karen. Mais nous, on a surtout été marqués par les choses surprenantes qu'on a pu manger. On s'est rendu compte que les Karen vivent en totale communion avec la nature, ce qui signifie qu'ils connaissent très bien leur environnement et très bien ses valeurs nutritives. Donc typiquement, on est allé pêcher des anguilles de rizière avec Jackie dans la jungle. Et on a rapporté pendant cette pêche toutes sortes de choses, tout ce qu'on pouvait trouver dans les rizières en fait. Et on trouve un nombre incalculable de choses dans les rizières, des araignées, des scarabées, des criquets, des sauterelles, des serpents, enfin bref, plein de choses qui sont absolument délicieuses, qu'on a dégustées le soir même, juste revenues dans une petite poêle.
C'est ironique ?
C'était un peu spécial. Les préparations étaient très bonnes, mais on n'était pas habitué à goûter à ce type d'ingrédients.
Merci de pas nous avoir ramené une recette d'araignée, ce sera plus simple à refaire. On a une minute pour la donner. Alors, quelle est la recette que vous avez ramenée, Marine ?
Alors, on a quand même très bien mangé, notamment au petit déjeuner, où on a dégusté une omelette à la carène. Donc, la recette pour 4 personnes, on prend 4 œufs, 2 carottes, un poivron jaune, un oignon, 4 gousses d'ail, 2 petits piments verts qu'on peut égrainer éventuellement si on n'est pas habitué à manger pimenté, 10 baby corns, les petits maïs, des brins de basilic, une cuillère à soupe de nuoc mam et de l'huile végétale. Alors on coupe les carottes et les petits maïs en rondelles, on émince l'ail et l'oignon, on coupe finement le poivron, on cisèle les piments et les brins de basilic, on casse les œufs et on ajoute le nuoc mam, on mélange le tout dans un saladier, on fait chauffer un grand wok à feu vif avec un petit peu d'huile végétale, on verse l'omelette dans le wok et on laisse cuire comme d'habitude 3 à 4 minutes.
Merci à vous. Je rappelle que de vos voyages est né un très beau roadbook culinaire paru aux éditions de La Martinière, Very Food Trip. Merci Marine Mandrila et Louis Martin de nous avoir régalé.
Merci à vous.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast avec l'appli Radio France. Pour nous adresser un message, il y a la page Facebook du temps d'un bivouac ou la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.